Un sol majeur.
Un sol majeur.
Alors pour ceux qui prendraient cette conversation en sol majeur au vol, je rappellerai les mots clés de notre invitée Rina Sherman qui fronce les sourcils et qui se demande qu'est-ce que ça peut bien être comme mots clés. Or ce sont des mots qui ont une chronologie émouvante, Afrique du Sud, apartheid, anthropologie, Jean Rouch, ça vous va comme mots clés?
Oui,
c'est un peu rapide. Hein. On pourrait rajouter que dans son exil parisien, notre cinéaste anthropologue n'en finit pas de fixer l'Afrique. Alors avant d'évoquer cet épisode chez les Ovaïmba, encore un petit mot de l'Afrique du Sud. Que vous quittez définitivement en 1984, Rina. On sentait bien les tensions entre la tournure politique du pays et vous, mais comment vous décidez de claquer la porte définitivement?
C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais comédienne, en fait la première comédienne blanche dans un théâtre noir, mais pas un théâtre noir comme il existait déjà, organisé par des blancs progressistes qui voulaient bien donner un petit voix ici et là aux Africains. Là, c'était vraiment, en fait, la ZAPO, les gens de la conscience noire qui avaient créé ce théâtre physiquement et spirituellement. Et ils avaient besoin d'une femme blanche pour un des rôles, parce qu'en fait, ils travaillaient absolument pas avec des blancs. Ils étaient dans la construction de leur propre identité. Et moi, j'ai vivé à 5 kilomètres du théâtre, et eux, ils vivaient tous à Soweto. J'étais la seule à avoir une voiture, c'est-à-dire que je les accompagnais, j'allais pas rentrer, et j'étais en permanence dans une espèce d'illégalité. À la fin, j'étais suivie, intimidée par des appels obscènes au milieu de la nuit, et j'avais compris à un moment donné que ma position privilégiée, que j'avais épuisé la marge que m'accorde cette position de privilégiée, et que soit je retournais à la plage me bronzer, redevenir la princesse blanche, ou je me taisais, ou je partais. Et voilà, je suis allée prendre un billet comme on va chercher un paquet de cigarettes, et je suis partie. J'ai pas démissionné, j'ai pas déménagé, j'ai pris un avion et je suis partie.
Magnifique. C'était comment votre arrivée à Paris en tant que sud-africaine blanche?
Rude. Très rude, car je parlais pas un seul mot de français. Et comme il n'y a pas de lien historique entre la France et l'Afrique du Sud, les attitudes étaient très tranchées. C'était t'es blanche, t'es mauvaise, t'es noire, t'es un ange. Et les gens me demandaient régulièrement.
Amnesty International qui vous accueille en tant que réfugié politique, ça se passe comment?
En fait, j'ai été accueillie par la CIMAD, mais très rapidement, ils m'ont mis en contact avec Amnesty. Et Amnesty, quand ils ont compris que j'étais pas forcément dans la ligne droite de l'ANC à l'époque, qui avait un peu monopolisé tous les contacts internationaux, ils ne pouvaient plus m'accueillir. J'étais hors de leur circuit parce que j'étais identifiée avec la conscience noire.
Donc et ce mouvement emmené par Steve Biko, donc
voilà, par Steve Bantu Biko, et eux, ils étaient par des blancs considérés comme des racistes noirs, or que c'est absolument pas le cas.
Très compliqué. C'est l'heure d'aller faire un petit tour du côté New Orleans, dans une église baptiste de la Louisiane, pour y écouter le gospel célébrissime d'une petite fille d'esclave devenue Mahalia Jackson. Et je remarque d'ailleurs que vous êtes quand même très sensible à tout ce qui est chant religieux, incantation spirituelle. Je me trompe?
Non, c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est le fait que dans mon enfance, j'ai souvent entendu les Africains, les voix des Africains s'étirer dans le veld comme ça, de manière lointaine, et je suis particulièrement attirée par ça.
Et sensible donc à The Upper Room de Mahalia Jackson.
Oh, wow.
See?
upper room, fettin' cheese. Well, in the upper room, oh, my love, well, my love, well, in the upper room, oh, in the upper room, it's in the upper room, yes, with my Lord.
Mahalia Jackson en sol majeur pour faire chanter, pour faire pleurer Rina Sherman, exilée depuis 1984 de son Afrique du Sud natale. Et c'est aujourd'hui de Paris qu'elle rêve d'Afrique en sol majeur.
Prendre racine, ça signifie quoi pour vous?
Vous reconnaissez la voix de vos... Je fais juste un petit commentaire. Vous reconnaissez quand même la voix de vos frères, les Ovaïmba, qu'on entend là.
Oui, oui, ça me donne des frissons.
je dis vos frères car c'est le terme. Avant de raconter cette histoire, resituez-nous en tant qu'anthropologue, ce peuple d'éleveurs.
Alors, c'est un peuple bantou dans les classifications linguistiques de langues dites Otierero. Donc, c'est une langue bantou centrale qui se trouve dans le nord-ouest de la Namibie, sud-ouest de l'Angola, mais aussi dans le centre de la Namibie et dans le centre du Botswana. Et c'est plusieurs peuples qui parlent des variantes de cette même langue, qui ont les mêmes croyances, mais avec des variantes. Certains sont plus éleveurs, d'autres plus agriculteurs.
Donc, ce qu'on va pouvoir dire dans le peu de temps qui nous est imparti, c'est qu'au bout de 7 ans de vie au milieu des Ovaïmba, que vous avez pris racine de façon assez étrange. Ça s'est pas fait en un jour, parce qu'au départ, vous débarquez avec tout le kit occidental, l'appareil photo, la caméra, l'ordinateur, les assistants, etc. Et il a fallu changer 2-3 choses, j'imagine.
Oui, il fallait... enlever son intelligence pour en apprendre un autre. Et aussi, j'avais déjà quand même fait un certain chemin. J'ai été déjà complètement décomplexée du fait que j'étais blanc ou que quelqu'un d'autre était noir. Ça veut dire, je suis pas arrivée là avec un sourire occidental. Je suis gentille parce que parfois je suis gentille, mais parfois je ne le suis pas. Et donc, on est entré dans une vraie relation tout de suite. Je pense aussi, comme c'est une culture où les hommes dominent, tout au moins dans la prestance ou dans la protocole. De fait, pas tout à fait, parce que c'est une culture duolinéaire, matrilinéaire et patrilinéaire. Mais je pense qu'au début, j'avais beaucoup, un fort besoin de marquer mes paramètres. Ce qui, à la fin, n'était pas nécessaire du tout. Parce qu'à la fin, quand ils ont appris à me connaître et moi, j'ai appris à les connaître, j'avais plus du tout besoin d'avoir des marqueurs.
Donc, à quel moment vous sentez que vous faites vraiment partie de la famille Tchambirou, c'est leur nom?
Oui, c'était quand j'ai abandonné le grand campement que j'avais construit par un malentendu sur un site sacré. Quand j'avais accepté, parce que je pense dans la vie il faut abandonner pour avancer, quand j'ai accepté d'abandonner cette magnifique palais de tente, c'était une espèce d'oasis comme ça, c'est la seule maison que j'ai jamais construite qui me convenait.
Sauf que c'était au mauvais endroit.
J'étais pas chez moi. La petite nuance. Et quand j'ai accepté ça et que je me suis mis dans une petite tente qui était à l'échelle de leur hutte, et je suis revenue modestement demandant si je pouvais mettre ma petite tente pour un peu de temps, et le chef a appelé les enfants pour leur dire d'enlever la bouse d'un tas de sable, et il m'a dit t'es chez toi ici.
Vous pourriez nous décrire celui que vous appelez votre père?
Mais je pense que c'est la seule figure de père dans ma vie qui m'a vraiment aimée pour qui je suis. Il m'a souvent dit, t'es très spéciale, mais on t'aime bien quand même. Ou il me disait, t'es un serpent à deux têtes. Moi, on dit que je suis un serpent, mais toi, t'es un serpent à deux têtes. Des choses comme ça. Il me prenait la main, il chantait des chansons de louange. Il y avait une très forte affection Je pense qu'il m'aimait pour qui j'étais. Or que mon père de sang, je n'avais pas cette impression. Il m'aimait parce qu'il était mon père, mais je pense que j'étais trop sauvage pour lui.
Est-ce qu'il y a eu une cérémonie pour sceller cette adoption ?
Non, ça s'est fait petit à petit. Ils m'ont donné un nom. Ils commençaient à m'appeler par le nom de famille. Et petit à petit, je veux dire, 7 ans, c'est long. On a le temps d'entrer vraiment dans les choses et de sceller des relations. Et je pense que le fait que, à la fin, je l'ai vraiment respecté, ça l'a beaucoup plu.
En même temps, si j'ose dire, il y a des limites à cette histoire, puisque vous êtes ici à Paris, vous êtes reparti, volé vers les portables, les 4x4, etc.
Ouais.
Il y a une limite.
Il y a une limite. En fait, à la fin, là-bas, je me suis dit, je pourrais rester et je pourrais y aller demain. Et rester pour le reste de ma vie, c'est chez moi et ça sera toujours chez moi. Avec les Africains, on rompt pas le contrat social. C'est pas comme en Occident, pour un oui ou pour un non, on entre dans la rupture. Mais ce n'est pas entièrement ma vie non plus. Donc c'est ça la contradiction. Quand on quitte son village, on est déglingué à vie.
Écoutez. Cette archive en sol majeur devrait vous rappeler quelque chose.
Today, the majority of South Africans, black and white, recognize that apartheid has no future.
Vous nous présentez cette voix, Rina Sherman ?
Oui. C'est notre Madiba.
C'est-à-dire
c'est quand même le leader de notre temps qui a le plus donné un exemple. C'est quelqu'un qui a fait 27 ans de prison pour son message d'amour, pas pour un message d'haine ni de conflit, et qui en sort, qui devient un président après 7 ans de prison. Et après 4 ans, il passe la main.
Donc Nelson Mandela, parce qu'on n'a pas dit son nom, premier président noir d'Afrique du Sud, de 94 à 99, et auquel Barack Obama, premier président noir des États-Unis, a souhaité bon anniversaire cette année. Ça aussi, c'est une archive dont vous aviez envie. Hein. Un symbole en croise un autre.
Oui, je pense que les paramètres ont changé avec la venue aux présidences d'Obama. Ceci dit, c'est quelqu'un qui a travaillé pour y arriver. Il n'est pas arrivé. C'est pas l'homme du moment ou l'homme de circonstances. C'est quelqu'un qui a fait du terrain.
Vous qui avez vécu les années d'apartheid, etc., cet hommage entre ces deux hommes,
c'était très très beau, d'autant plus que Obama le disait avec une classe comme ça. So happy birthday, Nelson Mandela. C'était très très beau, le so et le. C'était très très fort, et les artistes qui prenaient une puissance sur scène à ce moment-là, on rétablit un peu l'ordre des choses actuellement. Je veux dire, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais Obama n'est qu'un homme et il faut qu'il fasse ses preuves comme tout le monde, mais on rétablit un peu l'ordre.
Un petit gospel pour mettre du désordre dans tout ça. Moi, je reprendrais bien un petit gospel façon Five Blind Boys of Alabama avec pour lead vocal Monsieur Clarence Fontaine. Alors, dites-nous tout sur ce choix, Rina Sherman.
C'est une autre chanson.
J'aime beaucoup. Désolée. Non, vous dites ça avec beaucoup de doigté, etc.
Et l'autre chanson, ça fait rien parce que c'est magnifique tout ce qu'ils font, mais l'autre chanson, les paroles de l'autre chanson, c'est « Je ne suis plus ce que j'étais, mais je suis déjà un peu, je m'améliore, ça va mieux. Oui. » Et en fait, quand je suis revenue à Paris après ces 7 années, je revenais naturellement, humainement, avec une attente un peu comme un héros qui revient, or qu'il n'en était rien de tout ça, parce que je suis arrivée et il y a des catastrophes, des accidents de vie qui sont arrivés en même temps. Et en fait, cette chanson m'accompagnait pendant cette période-là. Pendant que je me reconstruisais à Paris, je me suis dit, bon, je suis plus ce que j'étais parce que j'ai pris quelques coups, mais ça va de mieux en mieux.
Donc, petit exercice d'imagination, hein, en écoutant Five Blind Boys of Alabama dans le programme en sol majeur de Rina Sherman. Over the hills and everywhere. chansons d'Alabama, autrement dit Fine Blind Boys of Alabama, dans le programme en sol majeur de Rina Sherman.
À quel moment pensez-vous dans l'autre langue?
Dans notre langue.
Vous avez tellement de langues.
Quelle est votre langue?
Oui, parce que vous nous parlez en français, mais on l'entend bien, c'est pas votre première langue.
À quel moment? À vrai dire, je ne sais pas quand je pense en afrikaans, ou en anglais, ou en français, ou en otero.
Ça vous échappe, ça?
Ça passe de l'un à l'autre. Je pense que ça dépend quelle partie du cerveau est le plus
sollicité.
Actif dans cette langue. Mais c'est un heureux mélange de genres.
Vous avez quel lien avec cette langue maternelle, langue de la communauté blanche en Afrique du Sud et identifiée à l'apartheid?
Mais un lien qu'on a avec sa langue maternelle, sa première langue, c'est une très belle langue, c'est une langue germanique qui donne toutes les possibilités poétiques que donnent les langues germaniques, c'est-à-dire très rapidement, de combiner, de prendre deux noms, de les combiner sans préposition et de créer une image.
Un exemple, en direct?
Oorlopend. Ça veut dire évident. Oor, c'est œil, et lopend, c'est en courant. C'est-à-dire ce qui coule dans l'œil.
D'accord, coule de source.
Voilà.
Quelque chose comme
mais
ça.
Mais voilà la préposition en français. Coule de source. D'accord. Alors, oorlopend, c'est...
Alors, ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est votre rapport avec la langue locale des Ovaïmba. Hein, vous disiez que c'était devenu votre famille. Est-ce que leur langue est devenue la vôtre de langue?
Je ne peux pas dire que cette langue est la mienne, parce que je ne la maîtrise pas suffisamment bien de pouvoir dire ça. Ceci dit, pour les trois dernières années, j'ai vécu tout seul avec eux, sans interprète et sans assistant, et on s'est très bien débrouillé pour des choses compliquées. Je me faisais traduire par des gens de passage qu'on attrapait comme ça à droite à gauche. Mais c'est une langue métaphorique absolument magnifique et difficile pour quelqu'un qui vient d'une optique occidentale, même si j'ai fait un peu de grec et de latin. Parce que c'est une langue à noms. Il a 23 classes de noms pour les femmes, pour les hommes, pour les choses droites, pour les choses rondes, pour les choses laides, pour les choses étrangères, pour les noms d'emprunt.
Très élaboré, très stratégique.
Voilà, et avec beaucoup d'allitération. C'est une langue tonale aussi, mais magnifique, très très beau, saccadé, très fort comme ça.
Est-ce que vous avez un mot ou une expression préférée? Je vous fais réviser
Omu là. Kwangu Kwangu. Ça veut dire la voie lactée.
Où voudriez-vous mourir?
Là-bas.
Là-bas.
À Etanga.
Ah, chez les Ovaïmba.
Oui, peut-être pas mourir là-bas, mais j'aimerais bien soit être enterré là-bas ou que mes cendres soient répandues là-bas, sur cette colline.
Et vous pensez être attendu pour ce moment ultime? Est-ce que c'est possible?
Moi, je me rappelle, à un moment donné, à mi-chemin de mon parcours, j'avais évoqué vis-à-vis du chef le fait que j'allais mourir. Ou, enfin, c'était... je ne me rappelle plus exactement les circonstances. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, ah non, si tu veux mourir, tu vas mourir chez toi. Ah. Mais je pense que lui, en tant que chef, il a pensé, parce que souvent, comme j'étais un peu sauvage, souvent il m'avait dit, il faut quand même que tu me dis où tu vas. Parce que parfois, je partais pendant 10 jours à droite, à gauche, je ne lui disais rien, comme un adolescent un peu. Il m'avait dit, moi, je ne t'ai pas demandé de venir ici, mais si t'arrive quelque chose, c'est à moi qu'on va te réclamer.
Vous racontez, Rina Sherman, que le corps du défunt erre jusqu'à l'endroit de sa sépulture définitive. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous souhaiteriez, vous aussi, être enterré? Pardon, j'ai du mal avec ce mot. Selon ce rite?
Non, pas forcément, car j'ai pas vraiment la foi. Donc, même si c'est un rituel très très beau, mais je n'attache pas d'importance ni aux choses matérielles, ni à un endroit précis où j'ai pas ce type de nostalgie-là, mais quand j'étais là aux États-Unis, j'étais dans la vallée de la mort et dans le Grand Canyon, et je voyais la paix qui m'arrivait de cet immense paysage. C'est ça, en fait. C'est se laisser reposer dans cette paix d'espace, en fait.
en sol majeur @rfi.fr.
Et puis je rappelle chaque jour maintenant que si vous aussi vous êtes de double culture, que vous habitiez, je sais pas moi, Berlin, Cotonou, Johannesburg, Shanghai, vous pouvez nous raconter sous la forme d'une anecdote, d'un court récit, votre expérience à vous de double culture, en quoi c'est une force ou un handicap. Et une sélection de vos témoignages sera publiée sur notre blog. Hein, ça y est, il est en ligne. Je vous redonne l'adresse deuxamoursattachés.blogs.rfi.fr. Merci Rina Sherman.
Merci à vous.
Je conseille la lecture passionnante de votre récit intitulé « Ma vie avec les Ovaïmba » en compagnie de Pierre-Albert Ruquier. C'est publié chez Hugo et compagnie. Et puis vous publiez un autre livre qui d'ailleurs ferait l'objet d'une autre émission. C'est le 8e mort de Tibirine autour de la mort de votre compagnon et grand reporter Didier Constant. C'est publié chez Tadamis. Vu l'heure, on va se quitter avec le style Purcell, c'est-à-dire le style baroque. Ça s'appelle « Oh Solitude » et c'est interprété par James Bowman. Un petit mot de ce morceau.
C'est juste pour moi la musique qui évoque le plus le sentiment de solitude en tant qu'être humain. Quelle que soit la façon dont on s'entoure, on arrive seul et on part seul. Et cette chanson, pour moi, évoque vraiment ça, mais sans tristesse, juste comme ça.
Caroline Fillette, Marc Delouvrier, Richard Rifono, Yasmine Chouaki. On se retrouve demain autour d'une autre voix, celle de la chanteuse américaine Eileen Barnes, qui a un peu de Suriname, de Barbade et de gospel en elle. À demain.